BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
Le futur trouve chaque vendredi son rythme de croisière, son bon tempo. C'est les pros des cryptos. Bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver en direct tout au long du week-end et autant de temps que vous le voudrez sur notre chaîne YouTube BFM Business, bien sûr. Ils sont là, nos pros des cryptos cette semaine. Claire Balva, directrice générale de l'ADAN. Bonjour Claire. Et Owen Simonin, il est à la tête de Meria et sa chaîne YouTube, et pas que YouTube d'ailleurs, Asher. Bonjour Owen.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver l'un et l'autre. Dans un instant, on va parcourir l'ensemble des grandes actus de cette nouvelle semaine crypto. Mais d'abord, il anticipe l'avenir. Vincent Gagne, analyste technique indépendant. Bonjour Vincent.
Bonjour Guillaume, bonjour.
On va parler du potentiel technique graphique des cryptos qui ont vécu une mauvaise semaine. Oui. Le Bitcoin, là, ça a été très compliqué. Les liquidations ont été massives. Le cours du Bitcoin qui est revenu du coup sur son plus bas annuel. Le point bas cyclique est-il en vue quand même?
Alors, je vais essayer effectivement de voir l'avenir. Alors oui, vous avez raison, Guillaume, les liquidations ont été massives cette semaine sur les positions longues à celle-là. En fait, ça a commencé depuis le début du mois de mai. Et là, c'est vrai que depuis le début du mois de juin, c'est énorme à la fois sur Bitcoin, sur ETH, même de manière générale sur les altcoins. La plupart d'entre elles font de nouveaux plus bas historiques. Alors, c'est une chasse à la liquidité qui était attendue parce que l'exposition longue à effet de levier était écrasante. En général, le marché prend un contre-pied lorsqu'on a une majorité comme ça exposée dans un sens. Maintenant, sur le plan technique et cyclique, j'ai envie de dire, le plan suit son cours. Moi, je vous rappelle ce que je vous expliquais il y a deux semaines. Le cours du Bitcoin reste dans le développement de son marché baissier cyclique. C'est la dernière étape, vous savez, du fameux cycle de 4 ans. Et ce retour sur les 60 000 dollars, ce retour sur les plus bas annuels, reste dans les cadres à la fois sur le plan temporel et sur le plan des prix. Alors, ce bear market cyclique a commencé il y a 250 jours. Ce que je peux vous dire, sans voir précisément l'avenir, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes entrés cette semaine dans la dernière phase de ce marché baissier cyclique. C'est-à-dire qu'on va bientôt avoir une phase de stabilisation, puis une phase de latéralisation, avant que la phase haussière puisse se redéployer, notamment à partir de l'année prochaine. Je vais essayer d'être précis, sans voir l'avenir précisément, comme vous l'avez dit. Je pense que le point bas sur le plan temporel sera fait quelque part entre le milieu de l'été et le tout début de l'automne. Ça, c'est vraiment l'aspect cyclique temporel. Et sur l'aspect prix, alors il y a plusieurs approches, mais si on combine l'approche analyse technique, l'approche statistique, l'approche cyclique et tous les outils d'analyse on-chain, ça donne grosso modo une fourchette de bottom et en dollars, je m'exprimais en dollars, comprise quelque part entre 48 000 dollars et 60 000 dollars. Donc, il faut encore être patient, mais dites-vous bien et que tous les auditeurs en soient conscients, Bitcoin est entré dans la dernière phase de son marché baissier cyclique, c'est-à-dire qu'en fait, devant nous, ce sont des semaines d'opportunités de long terme qui arrivent en termes de prix.
C'est ce qu'on espère. En tout cas, on parlait là de Bitcoin, on peut aussi en dire un mot, l'Ether. Quelle zone de prix privilégiez-vous pour la fin de ce bear market?
Oui, alors effectivement, alors le jeton ETH n'est pas soumis au même cycle de 4 ans de Bitcoin. Enfin, il n'y a pas le fameux halving qui a lieu tous les 4 ans, mais il n'empêche l'ensemble du marché crypto, et puis pour le coup, le jeton ETH n'échappe pas à sa corrélation temporelle avec Bitcoin, même si parfois il y a des petites différences. Donc là, de la même façon, moi je pense qu'on aura un creux majeur. Je le vois, moi, à titre personnel, plutôt au milieu de l'été, au cœur du mois d'août, qui est un mois traditionnellement faible pour les cryptos, pour vraiment le point bas majeur. Donc ça, c'est l'aspect temporel. ETH va s'aligner, grosso modo, avec Bitcoin. Pour l'aspect prix, je vous ai donné la fourchette 48 000, 60 000 dollars sur Bitcoin. Je ne peux pas être plus précis. Je vais essayer d'être précis pour le jeton ETH. À nouveau, à la fois en dollars, je vois une fourchette de bottom quelque part entre 1 150 dollars et 1 500 dollars. Et là, nous en sommes tout proches.
Vincent Gagne, analyste technique indépendant. Merci beaucoup Vincent de nous avoir accompagné. Alors elle a été riche sur le plan d'actualité cette nouvelle semaine. L'un des déclencheurs à la baisse du Bitcoin, c'est Strategy. Le groupe s'est mis à vendre des Bitcoins. Est-ce le signe que sa promesse, la promesse de Strategy, est profondément égratignée ou pas finalement? Nos pros répondront. On parlera aussi des stablecoins. Ça avance. Stripe, Visa, Mastercard et Coinbase prévoient apparemment de monter un consortium pour créer un stablecoin. Détail à suivre. Et puis Mika, pour l'instant, on n'est plus qu'à 25 jours de l'échéance en France. En effet, pour continuer d'opérer, les plateformes crypto doivent obtenir le tampon MiCA avant le 1er juillet. Le compte à rebours est lancé. On vous dira quelle proportion de plateformes sont dans le coup, lesquelles risquent de rester sur le bord de la route et ce qui se passera après le 1er juillet. C'est les pros, les cryptos, votre épisode hebdomadaire. C'est parti.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Avec donc Claire Balva. Bonjour Claire.
Bonjour
pour
Guillaume.
L'ADAN à nos côtés et Owen Simonin qui, alors à défaut de ciel bleu, parce que dans le nord de la France, il ne fait pas super beau, mais il porte un peu de bleu, ça nous fait du bien. Voilà, ça nous rappelle qu'on est quand même en juin. Merci Owen. Parfois, la lumière vient du Grand Nord. Bon, allez, on va entamer cette revue de la semaine sur le marché crypto. On va essayer d'anticiper aussi l'avenir grâce à votre lecture et votre analyse à l'un et à l'autre. D'abord, l'événement de la semaine, c'est que Strategy donc ne tient plus sa promesse de mettre Bitcoin au cœur de sa trésorerie. C'est une vraie question qu'on se pose parce que Strategy, cette semaine, s'est mis à commencer à vendre des Bitcoins. Est-ce qu'ils sont en train d'égratigner leurs promesses profondément, là, Owen?
Structurellement, non, mais dans les faits, oui. À partir du moment où le discours de Michael Saylor a toujours été d'acheter, de tenir et de ne jamais vendre, à partir du moment où il vend, il revient sur cette promesse d'une façon ou d'une autre. Maintenant, structurellement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pourquoi ? Parce que MicroStrategy, c'est pas juste une entreprise qui détient un peu de Bitcoin. Ils détiennent plus de 4% des bitcoins en circulation. On parle de 840 000 bitcoins détenus. Alors quand on voit tout le monde qui s'agite et les marchés qui s'activent parce qu'ils ont vendu 32 bitcoins, c'est non significatif. J'ai fait le calcul tout à l'heure, c'est 0,00034% des bitcoins qu'ils ont. Enfin, c'est complètement ridicule, mais c'est un signal psychologique. Et il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que Michael Saylor est en guerre sur les marchés. Il est en guerre, pourquoi ? 40% du flottant sur MicroStrategy, ce sont des shorts. Ce sont des personnes qui utilisent des mécanismes financiers dans le but de parier sur la baisse. Donc, c'est pas simplement un titre qui perd de la valeur parce que le Bitcoin en perd également. C'est un marché qui est naturellement en souffrance de par les cycles et de par la hausse fulgurante qu'il a connue. Et maintenant, il y a beaucoup d'institutions qui vendent elles aussi. Ça va faire 2 semaines que les ETF de BlackRock rouge et qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. MicroStrategy base une grosse partie de sa valeur sur la quantité astronomique de Bitcoin qu'elle détient. Et si elle doit elle-même devenir vendeuse, elle va, parce qu'elle a énormément de liquidités, faire elle-même intrinsèquement baisser le Bitcoin et ça peut être un cercle vicieux. Malgré tout, montrer qu'ils sont capables de vendre, c'est montrer qu'ils sont capables de tout simplement d'avoir un mécanisme avec un recul. Le mécanisme de financement de leur machine est très simple. C'est utiliser la capacité d'endettement et les dollars, monnaie qu'ils estiment comme dangereuse et qui se dévalorisera sur le long terme, pour acheter ce qui est pour eux, en tout cas dans leur narratif, l'or numérique, c'est-à-dire Bitcoin. Maintenant, il faut être capable de vendre ce fameux or numérique, surtout à un moment où ce serait se diluer beaucoup trop et ce serait beaucoup trop cher d'emprunter aujourd'hui au marché alors qu'il y a autant de doutes sur leur structure. Donc, ces 32 bitcoins, ce n'est qu'un symbole, ce n'est qu'une légère égratignure sur la promesse, mais c'est vrai que structurellement, ils avaient dit qu'ils ne vendraient jamais. Ça vient créer un point d'interrogation, une zone de doute, et du coup, les personnes qui shortent MicroStrategy sont contentes de voir le titre plonger en même temps que Bitcoin.
Oui, ils égratignent leurs promesses, mais en même temps, c'est aussi une façon de montrer que leur trésorerie est liquide, ce qui est une des conditions pour intégrer le S&P 500. Il y a peut-être une bataille aussi là, indicielle, de la part de Strategy pour tenter d'intégrer ce S&P, quitte à vendre 2-3 bitcoins, parce qu'à leur échelle, c'est 2-3 bitcoins. Ça a quand même eu un gros impact sur le bitcoin, et c'est là qu'on voit qu'il y a d'immenses baleines. Le bitcoin s'est créé sur la promesse d'une grande décentralisation. Là, on voit qu'un seul acteur, Strategy, en vendant un pouillème de ses bitcoins, a fait chuter la valeur du bitcoin, Claire.
Oui, parce que ce qui compte, et Owen l'a dit, c'est beaucoup plus le symbole que la quantité de bitcoin. C'est pas cette quantité de bitcoin-là qui, en réalité, fait en elle-même bouger le cours. Mais c'est un signal de marché important. Surtout dans une période où, Vincent Gann le disait tout à l'heure, on est plutôt en bear market. Et donc, c'est vrai que un signal de vente, à ce moment-là, dans une atmosphère, je dirais, plutôt morose, vient renforcer, je dirais, la peur des investisseurs qui est déjà là. Donc, c'est un symbole, mais comme toujours, je pense que ce qu'on rappelle ici, c'est de plutôt garder la tête froide et de ne céder ni à l'euphorie ni à la panique.
Alors, c'est vrai que le mois de juin est rarement un super mois dans l'univers des cryptos. Et alors, celui-ci risque d'être aussi particulièrement difficile avec des vents contraires nombreux. En tout cas, est-ce que ce sont des vents contraires ? SpaceX doit s'introduire en bourse, là, dans à peine une semaine. Ce serait la plus grosse introduction en bourse de l'histoire. On vivra ça, et vous le savez, sur BFM Business. On aura Anthropic aussi, peut-être dans les prochaines semaines. Est-ce que toutes ces introductions en bourse, là, risquent de prendre de l'argent au marché crypto? Est-ce que certains, pour participer aux IPO, aux intros, vont vouloir prendre leur plus-value crypto pour aller investir ces plus-values dans la bourse et dans ces nouvelles introductions, Claire?
C'est une bonne question. Je ne suis pas sûre qu'on ait autant de perméabilité que ça. On discute souvent sur ce plateau de la corrélation entre la bourse et la crypto. On a vu que ça avait plutôt tendance à diminuer, je dirais, depuis le printemps. Moi, je reste assez optimiste. Je n'ai pas le sentiment que les investisseurs crypto vont vouloir sortir leur crypto maintenant alors qu'on est plutôt dans une phase baissière et que c'est plutôt justement le moment où il faut tenir jusqu'aux hausses des potentielles prochaines années pour réinvestir des plus-values qu'ils n'ont d'ailleurs pas forcément hein, en ce moment, pour aller les investir en bourse. Ça me semblerait pas être une...
Oui, et on n'en est pas encore, Owen, à ce degré-là de porosité, vendre ses cryptos, générer des plus-values et ainsi financer un investissement dans SpaceX, dans l'IA qui cartonne en bourse. On n'en est pas à ce degré-là de porosité encore entre les cryptos et la bourse ?
Je suis plutôt d'accord avec Claire pour dire que ce n'est pas l'essentiel. Maintenant, il y a un rallye d'IPO qui arrive avec des listings complètement fous qui sont attendus. Je pense que les personnes qui vendent au gré des annonces et de la panique, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, leurs actifs qui sont considérés comme risqués, et c'est ce qui fait d'ailleurs que ça a corrélé Bitcoin au marché de la tech pendant si longtemps, je pense qu'une partie de ces personnes sont capables de prendre leur liquidité et d'aller jouer une chandelle le jour du listing pour revenir plus tard sur les crypto-monnaies, surtout que les investisseurs en crypto s'ennuient. Les investisseurs en crypto ne trouvent pas de profit en ce moment, et quand un investisseur s'impatiente, il peut aller sur un marché où il pense que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, et donc il va aller chercher son profit sur d'autres opportunités.
Oui, c'est presque plus la recherche d'adrénaline, en fait, que la volonté de profit tout de suite.
Oui. Plutôt l'adrénaline, oui, effectivement. Les pros des cryptos, juste un mot pour dire que, quand même, il y a un symbole important. Le dollar n'est plus dans les réserves des banques centrales. L'actif numéro un, l'or passe devant les trésoreries américaines, les obligations du trésor américain. C'est tout un symbole et c'est un signal supplémentaire de la dédollarisation du monde. Alors, le marché crypto, les acteurs crypto en rêvent de cette dédollarisation. Là, on envoie un signe supplémentaire, Owen.
Tout à fait. Pour la toute première fois en 30 ans, l'or passe au-dessus du dollar américain dans les réserves mondiales. 58% aujourd'hui, alors que ça représentait 71% en 2001. Et ça vient principalement du fait que, au début du conflit en Russie, les États-Unis ont gelé 300 milliards de dollars d'actifs, ce qui envoie un message très fort à tous les autres pays du monde, que ce soit pour une bonne ou pour une mauvaise raison, car c'est toujours une question de lecture. La réalité, c'est que les États-Unis peuvent geler à tout moment la liquidité, utiliser du dollar, c'est mettre dans votre poche un actif qui est sous contrôle des États-Unis. Et donc, naturellement, beaucoup aiment rapatrier l'or, c'est ce qu'a fait la France, hein, 130 tonnes d'or qui ont été rapatriés, puisque c'est un actif qu'on peut détenir, que personne ne peut geler, et même si c'est très lointain, ça fait un clin d'œil à la narrative de Bitcoin et au fait que personne ne peut mettre la main dessus, quoi.
Oui, et le dollar voit face à lui aussi la concurrence des stablecoins. Alors, il y a aussi beaucoup de stablecoins dollars, il faut le dire, mais ça avance hein, sur le marché des stablecoins, au point que Stripe, Visa, Mastercard et Coinbase prévoient, Claire, de monter ensemble un consortium pour créer un stablecoin.
Et c'est une information non officielle hein, qui n'a pas encore été confirmée par de vrais communiqués de presse des entités en question. Mais c'est quand même très intéressant parce que ce sont pour Stripe, Visa et Mastercard des géants du paiement. Stripe pour le paiement en ligne et puis Visa, Mastercard, on ne les présente plus. Mais le fait que ces acteurs-là s'intéressent beaucoup aux stablecoins, c'est, je dirais, une chose qu'on a déjà vue bien sûr plein de fois dans cette émission, mais qu'ils créent un consortium entre eux pour potentiellement créer un stablecoin, c'est vraiment un signal très fort. L'arrivée potentielle de Coinbase dans ce consortium qui n'est pas complètement confirmé pose aussi des questions, notamment sur la relation entre Coinbase et l'USDC. Et on a vu que ça créait pas mal de doutes justement en interne, même chez Coinbase et sur leur cours, parce que les gens se disent mais que va faire finalement Coinbase dans un autre consortium pour créer un autre stablecoin qui viendrait peut-être cannibaliser l'USDC. Donc c'est un signal de plus sur l'intérêt des stablecoins pour le monde du paiement. C'est aussi un signal de plus pour les stablecoins globalement, puisqu'on voit depuis cette année se multiplier les consortiums pour créer des stablecoins. Et je pense notamment à Kivalis, qui est le plus gros consortium en ce moment en Europe pour venir créer un stablecoin euro. Et on a appris également cette semaine la création d'un consortium en Italie avec 9 banques italiennes. Là aussi, alors ils disent qu'ils vont pas créer un énième stablecoin euro, mais créer carrément plutôt un schéma de paiement, un peu comme les cartes bleues en France. Mais potentiellement en se basant là aussi sur les stablecoins. Donc on voit finalement fleurir des initiatives un peu partout. Ce qui va quand même être vraiment intéressant, c'est d'observer quand elles aboutiront. Et souvent, les acteurs qui ont déjà créé leur stablecoin, je dirais en solo, regardent ces initiatives avec parfois un peu de scepticisme en disant, vous savez, créer un stablecoin, c'est difficile. Il y a beaucoup d'obstacles techniques, réglementaires, opérationnels, quand on est un établissement régulé. Et donc, déjà, le créer tout seul, c'est dur alors qu'on décide rapidement. Mais le créer à 4, à 10, à 20, à 30, c'est encore plus long parce qu'il y a une gouvernance qui est encore plus lente. Donc, ça crée bien sûr quelque chose de plus puissant par la suite parce que ça crée tout un réseau de diffusion. Mais ça ne veut pas dire que le stablecoin sera créé demain matin.
Oui, tout à fait. Ça peut prendre du temps. C'est d'un nouveau système de paiement mondial qu'on parle, hein, quand on voit ce genre de consortium incluant Visa, Mastercard, quand même, ensemble. Mais encore faudra-t-il que ça se fasse effectivement et que l'union soit vraiment la force. Hein. On dit souvent l'union fait la force. Parfois, l'union, c'est compliqué. Ça fait perdre du temps, en tout cas, la quête d'union. Mastercard, d'ailleurs, avance aussi parallèlement, tout seul. Owen, on a appris cette semaine que Mastercard venait de brancher 8 blockchains sur ses propres rails bancaires.
Tout à fait. Alors, ils avancent énormément. Ils ont fait une très grosse acquisition également cette année dans les stablecoins. Le message, c'est le suivant. C'est connecter plusieurs stablecoins à travers plus de 8 blockchains pour permettre la compensation et les paiements interbancaires en permanence. C'est-à-dire que, comme ils l'appellent eux, le always available. Et c'est le fait de vraiment être capable, du coup, d'arrêter d'immobiliser de la liquidité en attendant l'ouverture des marchés. Et moins de liquidité immobilisée, c'est naturellement plus de rendement et plus de capital efficiency sur les liquidités qui passent à travers le réseau Mastercard. On parle quand même d'une structure qui traite presque un paiement sur quatre dans le monde. Et on parle de plus de 10 000 milliards de volume annuel. Donc, c'est des montants, même sur des immobilisations de 24 à 48 heures en attendant une compensation pendant le week-end, qui sont colossales et qui, avec optimisation, peuvent faire toute la différence. En tout cas, c'est la direction que prennent toutes les institutions financières de détention, de custody, mais également les infrastructures de paiement.
Oui, sauf que le problème, c'est que certains institutionnels commencent à freiner sur tout ça. On voit qu'au cœur de Wall Street, il y a des vents contraires qui commencent à souffler. On n'arrête pas de parler dans les pros des cryptos de Wall Street qui se convertit à la crypto. Non, on n'avance pas complètement en ligne droite. Le Clarity Act, par exemple, a un petit peu de mal. En tout cas, on voit plusieurs banques vouloir entamer un bras de fer sur les stablecoins dont on parlait à l'instant avec Coinbase, Claire. C'est quoi le problème et pourquoi ça pourrait encore ralentir Clarity Act?
Alors, j'ai pas forcément suivi toutes les dernières évolutions, mais il y a un certain nombre de débats qui font rage sur le Clarity Act. On a notamment beaucoup parlé du débat sur le yield concernant les stablecoins, qui est un point d'achoppement majeur entre les banques et les plateformes crypto. Les banques estiment que qu'accorder du yield potentiel sur les stablecoins, ça ferait fuir les dépôts chez un certain nombre d'acteurs crypto, et donc ça limiterait la capacité des banques à faire du crédit.
Oui. Le yield, c'est le rendement, hein, quand votre stablecoin vous rapporte de l'argent.
Pardon pour le jargon. À l'inverse, effectivement, les acteurs crypto considèrent que les stablecoins, eh bien, c'est comme de la monnaie, et donc on devrait être en capacité de rémunérer les dépôts de stablecoins, tout comme certains établissements financiers peuvent rémunérer des comptes de paiement assez facilement. Et donc, il y a tout un enjeu ici d'intérêt économique entre ces différents acteurs, et donc des solutions réglementaires subtiles qui doivent être trouvées.
Oui, et le problème, c'est, vous le disiez d'ailleurs déjà ici la semaine dernière, il y a deux semaines, Owen, c'est que le temps presse pour ce Clarity Act. Là, ces difficultés, ce bras de fer supplémentaire entre les banques et Coinbase ne va pas accélérer le Clarity Act. Il faudrait qu'il soit adopté, disiez-vous, début juillet.
Tout à fait. Et le problème du Clarity Act, c'est qu'il ne concerne pas que les stablecoins. C'est-à-dire qu'il concerne énormément de choses, notamment le fait de fixer dans la loi et donc de rendre indélébile le fait que les crypto-monnaies, la plupart, Bitcoin, Ether, soient bel et bien des commodities et pas des securities. Et ça, pour le coup, c'est le minimum syndical pour pouvoir se développer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si c'est pas voté maintenant, on va devoir attendre 4 ans et les États-Unis vont prendre un retard complètement fou parce que la Chine avancera sur sa clarification des crypto-monnaies, l'Europe a déjà Mika, et donc les États-Unis peuvent perdre une partie beaucoup plus importante s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce document. En parallèle, même en interne, on voit des profils comme Jamie Dimon qui prend la parole pour JP Morgan et qui dit qu'il ne faut pas laisser Coinbase pousser ses idées et permettre du coup les fameux rendements sur stablecoin. Mais quand on dézoome, JP Morgan propose des solutions crypto, travaille déjà sur des stablecoins, elle construit des solutions sur la blockchain de Coinbase et sur la blockchain de Canton Network. Enfin, c'est une histoire complètement folle parce que les banques vont dans ces directions, les acteurs crypto sont en train d'essayer de devenir des banques, mais il y a un vrai sujet sur qui va être le perdant court terme et qui va être le gagnant long terme de ces différentes décisions si elles sont pas bien calibrées. Et donc, c'est un peu un jeu de ruse et je pense qu'on n'en voit pas toutes les ficelles. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est pas simplement David contre Goliath, c'est pas les petits acteurs de la crypto contre les géants de la finance et de la banque, parce que maintenant, même les géants comme BlackRock sont du côté de la crypto et ont besoin qu'il y ait cette stabilité réglementaire. C'est ce qui fait que le conflit est aussi complexe.
Oui, et parallèlement, la tokenisation, dont on n'en a pas encore parlé, là, parce qu'on a parlé de la disruption des stablecoins, bien sûr, on a parlé des évolutions du Bitcoin, de l'enjeu face aux IPO qui arrivent. Est-ce que ça va créer une forme d'appel d'air vers la bourse, pour le coup, depuis le marché crypto ou pas? Vous disiez plutôt non, l'un et l'autre. Et puis, il y a la tokenisation, parallèlement, qui, elle, transforme la bourse de l'intérieur. Cette tokenisation, à terme, peut-être que toutes les actions, toutes les obligations seront des tokens. On verra. Mais la Banque des règlements internationaux fait un pas. Elle vient de valider, Owen, la tokenisation comme socle technique pour les paiements transfrontaliers de gros montants.
Tout à fait, c'est la banque centrale des banques centrales finalement, donc c'est un message qui est très fort. En réalité, il y avait déjà plus de doute, c'est-à-dire qu'entre le positionnement des plus grosses bourses de ce monde, entre la facilité, la capacité à fragmenter certains titres, à avoir cette compensation week-end des jours fériés dans un monde qui va toujours plus vite, et quand on voit les volumes qui explosent, hein, c'est la seule courbe qui est vraiment, vraiment droite et linéaire, ça ressemble un peu à l'adoption des stablecoins, c'est le nombre d'actifs tokenisés. Aujourd'hui, en permettant ce genre de compensation, c'est directement les figures d'autorité du monde institutionnel qui envoient des messages très très forts pour expliquer et pour confirmer aux établissements que ça y est, le monde va partir sur la blockchain. C'est le socle qui permettra de suivre, d'échanger et de compenser des actifs. Et donc, naturellement, la plupart des grandes institutions étaient déjà sur la direction de construire des solutions sur la blockchain, voire la BRI qui maintenant se positionne de cette façon-là. Ça ne va qu'accélérer encore plus les décisions et pousser les initiatives afin que tout le système de la finance traditionnelle bascule toujours plus vite sur la blockchain et que cette technologie soit utilisée comme un socle et comme un standard d'échange.
Les tokens, c'est très court hein, comme mot, les tokens, mais le marché, lui, est très profond, s'annonce très profond. Citi prévoit, Claire, un marché des tokens d'une valeur de 5000 milliards de dollars d'ici 3 ans, d'ici 2030.
Oui, alors on voit beaucoup de prévisions, effectivement. Alors, celle-ci est relativement optimiste, mais elle ne nous choque pas, puisqu'en réalité, comme tout peut être tokenisé, des actions, des obligations, n'importe quel titre financier, en réalité, on peut répliquer la taille du marché financier traditionnel sous forme de token. Et donc, la taille du marché financier traditionnel peut très bien devenir demain la taille du marché tokenisé. Voire même plus, puisque des entreprises qui n'entrent pas en bourse aujourd'hui pourraient très bien avoir des actions tokenisées. Et donc, on pourrait créer une sorte de marché boursier pour des TPE, PME qui ne sont pas listées en bourse aujourd'hui, avec évidemment des nouvelles règles à inventer. Mais la taille de ce marché est extrêmement difficile à estimer. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on ait des
prévisions. Il y a des tokens immobiliers aussi. Enfin, on peut tokeniser plein de choses, hein, tout ce qui a de la valeur.
Oui.
En fait.
Alors, réglementairement, on a quand même pas mal de limites aujourd'hui hein, pour aller tokeniser de l'immobilier en France et en Europe, mais ça viendra sûrement.
Est-ce que si les tokens se développent au point qu'on est en train d'évoquer là, Ether en sera le grand gagnant. Voilà. Est-ce qu'Ether, là, dans sa bataille face aux autres cryptos, va gagner d'un coup une forme de statut supplémentaire?
Alors, Ethereum, je ne sais pas, hein, parce que c'est pas parce qu'Ethereum devient la blockchain la plus utilisée pour la tokenisation que le cours de l'Ether va mécaniquement s'envoler. Il faut bien distinguer ça.
C'est ce qu'on observe hein, depuis quelques années. Il y a une petite déception là-dessus.
Exactement. Et donc, il faut quand même décorréler les deux sujets. Effectivement, Ethereum a le vent en poupe et est quand même la blockchain la plus usitée pour ça. Même si on voit des tentations, notamment pour des sujets, par exemple, de paiement, d'aller sur des blockchains qui vont être plus rapides, plus efficaces. Alors, je pense à Solana, par exemple, qui est sans doute moins décentralisée, moins sécurisée qu'Ethereum, mais qui permettent de faire des opérations beaucoup plus rapidement. Et donc, il reste une forme de compétitivité entre ces différentes blockchains, notamment du fait que les Layer 2, donc ces fameuses surcouches dont on parle depuis plusieurs années ici, n'ont pas encore atteint un véritable niveau de maturité. Et donc, en attendant d'avoir des véritables solutions de rapidité pour du paiement qui fonctionnent correctement par-dessus Ethereum, il y aura toujours un espace pour différentes blockchains.
Les pros des cryptos qui se poursuivent, épisode à retrouver autant que de fois que vous le souhaitez, autant de temps que vous le voulez, tout au long du week-end et même au-delà. Sur notre chaîne YouTube BFM Business, sur l'Ether pour le coup, Bitmain veut-il imiter Strategy? C'est vrai qu'on a vu des infos passer selon lesquelles, ben voilà, Strategy qui a cédé des bitcoins, ça pourrait, pourquoi pas, donner une inspiration, des idées à Bitmain pour vendre de son côté l'Ether. Alors que pareil, la promesse, c'est d'en mettre un max en trésorerie. Est-ce que ça nous promet une chute à venir de l'Ether? Comment vous voyez une éventuelle inspiration de Bitmain sur Strategy, vous, Owen?
C'est un petit peu différent pour deux, trois raisons. La première, c'est que c'est beaucoup plus dur de pitcher une entreprise qui repose sur des stocks d'Ether qu'une entreprise qui repose sur des stocks de Bitcoin. Bitcoin, on va voir une institution, on lui explique que c'est un or numérique, que c'est, d'un point de vue logiciel, impossible d'en créer plus de 21 millions, et on explique à quel point c'est décentralisé, et ça peut faire sens. En tout cas, on peut trouver du sens dans ce discours. Le problème de l'Ether, c'est que c'est pas la même proposition de valeur. Ether, c'est un logiciel décentralisé, programmable, et c'est beaucoup plus dur de relier la valeur intrinsèque du jeton, de la crypto-monnaie Ether, à celle de son réseau. qui lui est clairement, visiblement, en tout cas c'est la direction que ça prend, l'infrastructure qui va être utilisée demain pour justement importer la bourse et importer toutes les classes d'actifs. Donc, je ne pense pas que ce soit un pari complètement fou. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même différent de reposer toute la valeur d'une entreprise sur une détention d'un actif dont les règles peuvent changer. Bitcoin, les règles ne changeront pas. Parce que pour changer les règles de Bitcoin, c'est un chemin de croix, ce n'est pas possible. Et c'est d'ailleurs la valeur même de Bitcoin qui repose sur ces principes-là. Alors que l'Ether, ben, la fondation pourrait très bien décider avec la communauté de faire un vote relativement rapide et de modifier la façon dont les Ethers sont brûlés. C'est ce qui a eu lieu il y a pas très longtemps, il y a de ça quelques années, quand l'Ether est devenu déflationniste pendant plusieurs semaines. Et après, il y a eu d'autres mises à jour pour réduire encore les frais que payaient les autres chaînes connectées, ce qui l'a rendu de nouveau inflationniste. Donc il y a plein de choses qui font que quand on modifie et qu'on se permet de modifier le paramètre de l'inflation, de la rareté du jeton lui-même, c'est beaucoup plus dur de faire reposer une entreprise entière sur un stock de cet actif. Malgré tout, ça m'a fait rire tout à l'heure, parce que vous avez dit qu'il y a une petite déception sur le prix de l'Ether. J'aurais pas dit petite, mais en tout cas, il y a un truc qui est certain, il y a encore un désalignement entre la perception de la valeur de l'Ether et la communauté qui en détient aujourd'hui, c'est sûr.
Ouais. Et dans l'actu, dans quelques jours, dans 25 jours, 1er juillet, il faudra avoir tous les tampons MiCA hein, pour continuer d'opérer quand on est une plateforme d'investissement crypto. On en est où là? Quelle proportion justement de plateformes, d'acteurs qui doivent obtenir le tampon MiCA l'ont obtenu, doivent l'obtenir et qu'est-ce qui se passera clair après le 1er juillet?
Alors, aux dernières nouvelles, l'AMF a délivré, il me semble que c'est 18 agréments MiCA, en tout cas entre 15 et 20, pardonnez-moi si le chiffre n'est pas exact, mais effectivement, on est bien loin des 80 ou 100 entreprises qui étaient simplement enregistrées PSAN. Et c'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de titres parfois un peu alarmistes dans la presse qui disent il va y avoir plusieurs dizaines d'entreprises, 50 entreprises, 60 entreprises qui vont devoir fermer. À partir du 1er juillet. En réalité, il faut bien comprendre quelles sont ces fameuses 50 ou 60 entreprises qui vont fermer, dont on parle dans la presse. En réalité, beaucoup d'entreprises n'ont pas déposé de dossier d'agrément MiCA parce qu'elles n'ont jamais vraiment réussi à démarrer leur activité, parce que l'entreprise a fermé depuis un moment. Et donc, c'est pas parce que 50 entreprises crypto vont fermer qu'une grande partie du marché crypto va s'effondrer en France. C'est pas du tout ça. En réalité, la plupart des acteurs significatifs crypto sur le marché français vont naturellement avoir leur agrément. Alors, il reste toujours un suspense pour certains d'entre eux, mais la grande majorité des entreprises qui n'auront pas leur agrément sont soit des entreprises qui n'ont même pas déposé de dossier, soit des entreprises qui ont vraiment une petite taille. Et donc, évidemment, c'est très malheureux qu'elles ne puissent pas déposer un dossier, qu'elles n'aient pas les moyens d'aller chercher un agrément. Mais l'essentiel du marché crypto français est quand même représenté par ceux qui ont eu leur agrément ou qui vont l'avoir dans les prochains jours.
Oui, et puis on sait aussi, vous la donne particulièrement, malheureusement aussi, l'actualité des faits divers et judiciaires, les attaques cyber continuent de se multiplier contre certains investisseurs en crypto. L'AMF d'ailleurs veut mettre les PSAN, on parlait là de MiCA, de se conformer, veut mettre les PSAN face à leurs responsabilités aussi sur ce sujet-là.
Oui, enfin pas que les PSAN d'ailleurs, hein, tous les acteurs régulés, aujourd'hui les PSAN comme les autres doivent respecter un règlement dit DORA sur la résilience numérique. Et l'AMF, tous les régulateurs en réalité sont en train de mettre en garde les acteurs contre les nouvelles menaces créées par l'intelligence artificielle. Alors, nombre de ces acteurs étaient déjà bien sûr au courant, mais forcément le régulateur essaye de mettre un peu la pression pour comprendre comment ces différents acteurs se protègent. Et c'est vrai que l'IA crée bien sûr de nouvelles opportunités du point de vue de la productivité au sein des entreprises ou de l'innovation, mais crée aussi de nouvelles menaces. Je pense par exemple aux menaces sur le KYC ou tout simplement des menaces d'attaque d'informatique beaucoup plus sophistiquées. Et donc c'est important que voilà que ces acteurs apprennent à se protéger et aussi qu'on mutualise un peu les bonnes pratiques. C'est ce qu'on fait à l'ADAN par exemple.
Merci beaucoup Claire Balva, la directrice générale de l'ADAN. Et Owen Simonin était nos invités cette semaine des pros des cryptos. Owen alias Asher et à la tête de Meria. À retrouver tout au long du week-end cet épisode. Dans un instant, c'est BFM Bourse qui va démarrer avec l'ouverture de Wall Street en direct comme chaque jour sur BFM Business. À tout de suite.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.